planète n'arrête pas de tourner parce que c'est le week-end. Restez informés en écoutant Que Québec se lève avec Paul-Raphaël Charon et Marc Boilard. Jusqu'à 10h, vous écoutez Que Québec se lève.
Que Québec se lève au FM 93.
FM 93, ça me parle.
Il est 7h pile, samedi le 5 janvier 2019. Bonjour à tous. Bienvenue à Que Québec se lève. Salutations cordiales et distinguées à mes collègues Marc Boilard et Kevin Dupont.
Hola.
Bon matin.
Cocorico, messieurs.
Ben oui.
Commençons bien la journée, Kevin, avec le tour des nouvelles.
Oui, ben Paul, il y a un conducteur de chenillette de déneigement qui pourrait perdre son emploi pour avoir conduit sous l'influence de drogue. Des policiers du SPVQ ont intercepté le déneigeur âgé de 30 ans après que des gens aient dénoncé sa conduite dangereuse et erratique dans le secteur de la rue de l'aéroport. Il a été conduit au poste de police afin d'y rencontrer un agent évaluateur pour le dépistage des drogues. Au moment d'être évalué, il a montré des signes s'apparentant à un malaise. Une fois transporté au centre hospitalier, une prise de sang a été prélevée. Il devrait être accusé, il a dû être accusé hier après-midi de conduite avec les facultés affaiblies par la drogue et possession de stupéfiants.
Je pense qu'il était trop mêlé pour comparaître.
Oui, c'est ça.
Ouais, il était trop. Parce qu'il était arrêté donc, en état de consommation. Puis il était tellement magané qu'ils ont dit non, attends un peu, là, avant que de te faire comparaître.
C'est ça, il aurait dû comparaître hier.
Il l'a envoyé en cellule de dégrisement.
Là. Mais sais-tu pourquoi ils l'ont reconnu?
Parce qu'il était efficace. C'est chiant, ça.
Ils ont dit, hein, ça marche au bout, il déneige au. Il y a lui, là.
Non, mais le pire, c'est qu'ils disent conduite erratique. Mais moi, j'ai jamais vu une chenillette de trottoir aller droite, là. Ça va tout le temps zigzag, à moins que ce soit lui que j'ai croisé à chaque fois.
Oui, exact.
Stéphane Bernier, 47 ans, comparu hier au palais de justice de Québec où il a été accusé de tentative de meurtre sur son frère aîné. Des accusations de voies de fait graves mettant la vie en danger et voies de fait armées avec un couteau de cuisine ont également été portées. Il a été arrêté jeudi après-midi dans un appartement de la rue Saint-Charles dans le secteur de Neuchâtel à Québec. Selon le Journal de Québec, il aurait eu de la difficulté à se rendre dans le box des accusés en raison d'un traumatisme crânien. Son frère âgé de 58 ans a été conduit au centre hospitalier jeudi après la dispute qui a mal tourné. Un deuxième accident mortel s'est produit sur les pentes de la province en moins de 48 heures. Un jeune planchiste de 22 ans a succombé à ses blessures après un accident survenu vers 13 heures hier après-midi au mont Lac-Vert à Héberville, au lac Saint-Jean. Il aurait fait une mauvaise chute en voulant effectuer un saut dans un parc à neige. Il ne portait malheureusement pas de casque. Rappelons qu'une jeune femme de 15 ans a également perdu la vie mercredi après avoir volontairement sauté d'un télésiège en Abitibi-Témiscamingue.
Là, il y a une nouveauté qui se présente à moi sur le site de Météo Média. Pour le temps qu'il fait en ce moment. Parce
je regarde ailleurs.
Non, mais ce matin, c'était brumeux, tu sais, puis tu comprends pourquoi. Il fait plus chaud, puis la neige fond, puis brouillard verglaçant.
Hein?
C'est nouveau,
c'est
hein?
C'est une première.
Oui, c'est nouveau. Alors, brouillard verglaçant, c'est le météo actuel.
Qu'est-ce que ça peut être, très honnêtement?
Ben, du brouillard, là,
ouais.
Qui verglace un peu, tu sais.
Ça m'adapte, ça m'aide pas tant.
Max de 2 cet après-midi. Nuageux, quelques flocons, quelques accumulations, mais des accumulations mineures. Là, ça restera pas au sol, là, même, parce qu'on va faire 2 cet après-midi. Moins 3 la nuit prochaine. C'est à peu près 1 cm de neige, pluie verglaçante à travers cette brume. Demain, moins 1, c'est le maximum avec quelques flocons, mais encore à peine 1 cm d'accumulation. Et de la neige, principalement pour mardi, la semaine prochaine. On parle d'une quinzaine de centimètres de neige, là. Sinon, ça va être du soleil toute la semaine. Présentement, c'est zéro à Québec.
Hockey Junior, les Remparts ont eu le déçu 4-3 en prolongation sur les Wildcats de Moncton. Pierrick Dubé a marqué le but vainqueur. Carmine Anthony Pagliarulo a repoussé 25 tirs dans la victoire. Le prochain match de Québec, c'est ce soir, 18h, du côté de Halifax. Dans la Ligue nationale de hockey, Carey Price a donné une bonne frousse aux amateurs de hockey. Hier, le gardien de but a quitté l'entraînement du Canadien après avoir passé seulement une vingtaine de minutes sur la patinoire. Il sera quand même en mesure d'affronter les Prédateurs de Nashville ce soir. L'entraîneur-chef du tricolore Claude Julien a indiqué que l'athlète avait été victime de légers étourdissements. Et dans la NBA, LeBron James ratera au moins 4 rencontres de plus des Lakers de Los Angeles, tandis qu'il se remet de sa blessure à l'aine. Les Lakers ont indiqué hier que l'état de santé de James serait réévalué dans une semaine.
Pensez-vous que Carey Price, il fait juste ça pour tous nous confondre, puis genre, pour donner de l'ouvrage aux journalistes, mettons? Il sort sa meilleure game de l'année avant-hier contre les Canucks. Blanchissage. Il revient d'une blessure en plus qui a fait tellement jaser dans le temps des fêtes. Il se passait rien. Fait qu'évidemment, quand Carey Price se blesse, écoute, on est sauté là-dessus, tu sais.
Mais tu sais, ça se peut aussi qu'il avait pas mangé son petit yogourt avant l'entraînement puis il est devenu étourdi, là. Ça se peut, là.
Ben non.
Ben oui.
Pourquoi?
Ben des fois, quand tu manges pas assez avant de faire un effort physique, tu deviens étourdi, tu vois un peu des points noirs.
Ah, pauvre Kevin.
Pauvre Kevin.
Oui. Kevin, s'il n'y a pas son petit yoga à l'émission du matin.
C'est ça qu'on entend.
Rendu à 8 heures, il vient bien mou.
Ouais.
Il est assis, puis il vient les genoux mous quand même.
Ouais.
Non, mais ma théorie, c'est Carey Price, il est chez eux le soir, puis il se dit, bon, qu'est-ce que je vais inventer demain? On a une game samedi. Vendredi, là, je viens de faire un... Tu sais, jeudi soir, là. Je viens de faire un blanchissage contre les Canucks. Ça a bien été. Il est dans son lit, il regarde le plafond. Il dit, demain, à l'entraînement, je vais quitter prématurément. Ils vont capoter.
Paul, t'es en train de me dire que Carey Price et ses soubresauts de santé, c'est l'équivalent des tweets de Donald Trump.
Wow. Peut-être. C'est une théorie.
Ouais,
c'est une théorie.
Ouais, mais peut-être aussi qu'ils ont un pool à l'interne, puis ils se disent bon, ben là, Carey, pas game de faire telle affaire, puis là, ben, ils essaient de le faire le lendemain. Tu sais, c'est comme une espèce de pool à l'intérieur.
Pis
ils ont des défis à faire.
Pas game de quitter prématurément la game. Pas game de dire directement, tu vas texter Olivier Primeau. Le gars du Beach Club, pour lui dire que ta saison est finie.
Oui.
Comme ça, lui, il va aller sur les réseaux sociaux. Je sais de source sûre, parce que c'est ça qu'il a fait.
Tu sais?
La saison de Carey Price est terminée.
Ouais.
Après ça, il revient, il fait un blanchissage, Olivier Primeau, blanc pâle. Tu vois à travers sa face, c'est sûr. Ça serait bon, ça. Un pool de t'es pas game de quitter l'entraînement prématurément en disant que t'es un peu étourdi.
Non, mais partir un pool des blessures de Carey Price, c'est très drôle.
Ben oui, ça,
sérieusement,
c'est
là.
Ben
qu'est-ce qui va arriver? Sais-tu quelle date, quelle minute? Celui qui est le plus proche de « Ah, on vient d'annoncer que... »« Ouais, j'ai gagné.
» Mais je me sens, j'imagine le tableau. OK, moi, j'imagine qu'en deuxième période, il va se blesser dans tel match.
Ouais, il revient pas à telle minute.
Ouais.
Ah, il faut mettre de l'argent là-dessus. T'as raison, faut se partir quelque chose. Comme à chaque matin, on va se lancer dans les journaux, évidemment, les nouvelles qui ont retenu notre attention. Pour ma part, ce matin, c'est en page 7 du Journal de Québec, une nouvelle qui est titrée des femmes tuées parce qu'elles sont des femmes.
Ouais.
Et a priori, c'est peut-être juste le titre, le problème de cette nouvelle-là. Quoi qu'il y ait une mosaïque en page 6 de femmes qui ont été sordidement et tragiquement tuées, assassinées au courant de la dernière année. Essentiellement, je vous en lis un extrait, là, vous allez comprendre de quoi il est question, mais c'est assez simple. Le nombre de Québécoises tuées par leur conjoint ou par un membre de la famille est atrocement stable malgré les campagnes et les mouvements de dénonciation des violences envers les femmes. Le Québec a connu en décembre dernier deux drames qui ont toutes les apparences de meurtres conjugaux. La disparition de Christine Saint-Onge lors d'un voyage au Mexique, on se souvient de cette histoire-là, et l'assassinat de Lauriane Grenier à Saint-Jean-sur-Richelieu. En 2018, la forte majorité des 20 femmes et fillettes victimes de meurtres ont été tuées dans un contexte familial, selon ce que le Journal de Québec a compilé. Je rappelle le titre de cet article, « Des femmes tuées parce qu'elles sont des femmes ». A priori, je m'attendais en lisant ça à ce que justement ce soit vraiment des crimes... style
qu'on appelle passionnel.
Nécessairement.
Okay,
dire,
okay, ouais, non,
moi,
je me
disais, c'est des misogynes, là, maladifs, qui ont tué des femmes parce que c'était des femmes et ils en ont après les femmes.
Je te suis.
Le fameux le mouvement des célibataires involontaires, là, les incels.
Ouais.
Je m'attendais à des affaires comme ça. C'est peut-être moi.
Ouais.
Puis écoutez, je m'apprête à tenir une opinion qui risque d'être fort impopulaire, mais ça me dérange pas. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Mais j'ai un profond malaise, moi, quand je lis cet article-là. Parce que il y a bon nombre de femmes dans la fameuse mosaïque qui accompagne cet article-là. Il y en a plein des femmes qui sont décédées, mais très tragiquement. Puis si j'étais leur proche et leur famille aujourd'hui, puis que je voyais ça dans le journal, je me dirais, mais c'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport avec le fait qu'ils soient des femmes? Et principalement, la photo de la petite Rosalie Gagnon.
Ouais.
J'étais mal à l'aise.
Elle est morte
quand
de quoi, elle?
Ça.
Elle est morte de quoi?
C'est sa mère, Audrey Gagnon, qui l'a assassinée puis qui l'a dompée dans une poubelle.
Ah, ben oui, c'est.
Tu viens de ça ici à Québec, à Charlebourg.
Ouais, effectivement, ça n'a aucun rapport avec le
ça.
En tout cas, il n'y a rien qui nous laisse croire que c'est dit. Oh non, j'ai eu une fille, si j'avais eu un gars.
Non.
C'est
vraiment d'une maladresse que de titrer cet article-là. Puis je m'en prends au titre parce qu'honnêtement.
Non, mais la réalité demeure pareille, c'est ça qui est bizarre.
L'article au complet est basé sur le fait qu'il y a des femmes qui sont tuées parce que c'est des femmes.
Ouais.
Puis la réalité, c'est que il y en a peut-être, mais c'est pas la démonstration qu'ils font.
Non, je comprends.
Et mon gros malaise, c'est quand j'ai vu la petite face de Rosalie Gagnon qui a été assassinée par sa mère, présumément, à 2 ans, et dont le corps a été lancé dans une poubelle. Mais il y en a d'autres. Une femme de 52 ans de Sherbrooke qui a été poignardée à mort par son fils, qui a été reconnue non criminellement responsable. Alors, je défends pas le fils, là.
Mais
s'il est reconnu non criminellement responsable, c'est qu'il y a un rapport psychiatrique,
qui a
une évaluation
lui, il est pas là, là.
Psychiatrique, il dit lui, là, il était pas psychologiquement, là, il était pas en contrôle de ses moyens. Ouais. Alors, il est responsable du meurtre, mais pas criminellement au sens de la loi.
Je comprends.
Alors, comment on peut prétendre que la personne, la mère du jeune homme en question qui est décédé, est morte parce que c'est une femme,
ouais,
et que malgré les mouvements, moi aussi, et que la sensibilisation aux questions féministes, il y a encore des meurtres de femmes qui sont perpétrés parce que c'est des femmes.
Je suis.
Mais mon Dieu, c'est tendancieux. Je trouve ça absolument malhabile comme article. Cela dit, est-ce qu'on a raison de faire une nouvelle pour dire... Par exemple, on dit que la violence dirigée vers les femmes cette année s'est manifestée particulièrement par un nombre élevé de matricides, c'est-à-dire un bon nombre de fils qui ont tué leur mère.
Oui.
Okay? Ça, c'est un phénomène. Mm. Ça a marqué la dernière année. Qu'on s'attarde à ce phénomène-là, moi, ça m'intéresse beaucoup.
Ouais, ouais.
Puis qu'on consulte des spécialistes, puis tout ça. Puis moi, je vais lire cet article-là, puis je vais dire, waouh, bravo. C'est un phénomène qui est intéressant. Parce que les faits démontrent qu'il y a eu plus de matricides dans la dernière année que précédemment, par exemple. Mais des femmes tuées parce qu'elles sont des femmes, il y a une autre affaire.
Tu trouves pas que c'est concluant,
non,
ce qu'on te démontre
après. Non. L'autre affaire, c'est qu'on dit... Il y a des spécialistes qui disent on parvient pas à faire baisser le taux de femmes qui ont été tuées dans des contextes de violence conjugale et autres. C'est selon Catherine Rossi, qui est professeure de l'École de travail social et de criminologie de l'Université Laval. C'est pas n'importe qui, là.
Mm-hmm.
Pourtant, les autres types de crimes sont en baisse, à l'exception de la cybercriminalité. On peut comprendre pourquoi.
Ouais.
Il y a une autre personne qui dit ça n'a pas d'allure qu'il y ait encore autant de meurtres conjugaux. Claudine Thibodeau de SOS Violence Conjugale. Elle dit où le nombre d'appels est atrocement stable depuis 20 ans. Mm. Donc, le nombre de crimes perpétrés sur des femmes en raison de violences conjugales ou de situations familiales instables, et le nombre de crimes est stable. Puis on termine l'article en disant, il y a eu une grosse, grosse baisse dans les années 90 du nombre de ce genre de crimes-là. Puis depuis les années 70, c'est atrocement stable. Il y en a une vingtaine dans la dernière année. Est-ce qu'on peut se demander si on a atteint le seuil critique? Puis ce que j'appelle le seuil critique...
C'est-à-dire qu'à moins de miracle, ça peut juste pas... La société étant ce qu'elle est, même à son meilleur, à un moment donné, ça va exister.
Hypothèse.
Mais ça se peut. Ça se
Puis
peut.
Ça, c'est la théorie des accidents de la route.
Ouais.
Il y a des groupes qui travaillent à la sensibilisation des automobilistes, des cyclistes, des piétons, des camionneurs, le partage de la route, puis qui visent l'objectif là, zéro accident.
Ouais.
Ça n'arrivera jamais.
Ouais.
L'objectif zéro accident. Cela dit, leur cause...
Mais c'est quand même ce que tu essaies de viser. Tu sais, dans ta démarche, comme elle, là, tout ce qui parle, ce que tu essaies, c'est qu'il y ait zéro mortalité conjugale, appelons-le de même.
Ça arrivera pas.
Non, oui, je sais, mais ça n'empêche pas que c'est ce que tu vises.
Ouais, mais si tu
dis pas, cette année de 9-20, c'est correct, ça n'a pas de sens. Tu peux pas faire ça. Ben, tu peux pas le dire.
Ben, je suis pas d'accord, moi.
Ben.
Parce que si tu veux être cohérent, puis que tu constates que depuis les années 70, il y a eu une grosse, grosse, grosse baisse en raison de sensibilisation aux questions féministes, de sensibilisation et de prévention, d'amélioration des services aux hommes violents, aux femmes victimes, à Cœur d'Homme notamment, qui est un organisme bien connu là, qui vient en aide aux hommes qui sont violents.
Absolument.
Bon, à partir du moment où tu donnes des ressources à ces groupes-là, puis que vraiment il y a un effort qui est fait pour diminuer ces crimes-là, ça fonctionne. Ça diminue, puis à un moment donné, ça stagne pendant 40 ans.
Ouais, peut-être parce que malgré les efforts...
Ben, peut-être que les gens qui travaillent... Tu sais, peut-être qu'eux autres, c'est même cohérent, ils peuvent dire, à 20 par année, c'est pas moins triste.
C'est 20 de trop.
C'est pas moins tragique.
Je comprends.
C'est 20 de trop.
Mais on n'en aura pas 10 l'an prochain.
C'est ça.
Ça se peut. C'est une observation valable.
Puis, pour ce qui est de l'amélioration des ressources disponibles...
C'est ça, c'est que dans le fond, ce que tu dis, qui a beaucoup de sens, c'est qu'il y a plein de départements dans la vie en général où est-ce que de dire on aura une victoire juste quand il n'y aura absolument plus rien de dommageable, c'est peut-être un faux objectif. Qui nous fait dire, oh mon Dieu, c'est épouvantable, quand à quelque part, peut-être que c'est le contraire. C'est-à-dire, on a vraiment réussi à améliorer des choses. On est tous en train de viser, tout le monde.
Ouais.
Sauf ceux qui causent le trouble, bien entendu. On est tous en train de viser le zéro déchet, le zéro meurtre, le zéro, tu sais, tout ce qui est dommage
zéro
dans une
viande,
société.
T'sais.
Le zéro tout, ben peu importe, ouais. Mais il arrive un moment où est-ce que si tout ce qu'on dit, c'est « Ah, c'est vraiment en poche », on n'arrive pas à ce zéro-là symbolique. C'est peut-être comme demander à quelqu'un de lever 500 livres au bench, puis dans la vraie vie, à 150, on devrait applaudir.
Ben ouais, c'est okay, l'image fonctionne, c'est ça.
C'est pas bête.
Puis le dernier malaise là, que j'ai eu un peu en lisant cet article-là, c'est parce que évidemment là, ça se poursuit dans le journal. Puis là, en page 45, il y a une des spécialistes qui était aussi dans les mêmes interviews, là, qui est interrogée, et qui dit « L'idée que la femme doit être possédée comme un objet est souvent ancrée dans la mentalité des hommes violents.
Oui.
D'où l'importance de mieux éduquer les garçons à l'égalité des genres, selon plusieurs intervenants. » Moi, j'ai une autre théorie par rapport à ça. C'est-à-dire, l'éducation des jeunes garçons par rapport à l'égalité des sexes, là, elle se fait déjà depuis 20 ans. Là, et il faut continuer de la faire, ça c'est certain. Mais faut encore plus en faire auprès des enfants, là, je pense pas. Cela dit, je te parlais d'accueil d'hommes tantôt, puis des maisons d'aide puis de soutien aux femmes qui sont victimes de violences conjugales. Ils débordent, eux autres. Ils débordent.
Ouais.
Toute la gang.
Ouais.
Est-ce que ça peut être eux autres qui ont des ressources? Parce que s'ils débordent, c'est qu'ils sont consultés. Là.
Ouais.
S'ils débordent, c'est parce que les hommes y vont, puis les femmes y vont.
Ouais.
Hein? Alors, les problèmes de violence conjugale, là, c'est d'une complexité, mon gars. T'sais, je pense aux autorités, aux policiers qui interviennent. Des femmes qui sont prises sous le joug d'hommes violents, manipulateurs. Elles veulent pas porter plainte. Les policiers, s'il n'y a pas de plainte, ils peuvent rien faire.
J'ai des amis dans la police. C'est comme...
C'est super complexe.
Ouais, c'est super complexe.
Alors, on peut-tu d'abord commencer à miser sur ces organismes-là qui sont vraiment... C'est le dernier rempart, dans le fond.
Ouais.
Avant que vraiment le presto saute puis qu'il y ait un crime qui soit commis. Mais vraisemblablement, si c'est plein tout le temps dans ces maisons-là, ben c'est qu'il y a des gens qui les consultent. Alors, qu'il y ait plus de ressources, plus de places pour accueillir des gens, plus de maisons, plus de... Pour moi, ça, c'est plus important que de se dire on va commencer à intervenir à l'école primaire comme si ça se faisait pas déjà. Ça fait 20 ans
surtout,
que
comment,
les enfants sont élevés dans les écoles primaires en tentant de résoudre leurs conflits sans violence, puis en traitant leurs camarades de classe, gars comme filles, d'égal à égal. Puis bon, là, l'intimidation à l'école, c'est une chose, là, mais
ouais.
Je suis pas sûr, moi, que c'est ça la solution. Bref, à ton tour, Marc, tu voulais me parler de... L'humour beige.
Ben, c'est-à-dire que Maxime Martin, qui a une chronique d'humeur dans le Journal de Québec de Montréal.
Un humoriste.
Comme
ils ont ri de ça au Bye Bye, d'ailleurs,
oui,
les humoristes.
Oui, c'est ça. C'est comme Assumez-vous ou pas.
C'est un humoriste pas drôle.
Ça s'appelle le Bye Bye et l'humour beige.
OK.
Puis lui, ce qu'il dit, c'est que c'est l'éternel combat, puis il a raison. C'est-à-dire les gens qui critiquent l'humour. D'abord, sache une chose, Paul, c'est que à peu près une fois ou six mois, il y a toujours un chroniqueur à quelque part pour dire les humoristes parlent mal, il aurait pu aller plus loin, etc. Tu remarqueras que règle générale, c'est l'apanage de gens qui sont pas drôles. Alors, pour pas les nommer, c'est rare que quand je lis Denise Bombardier, que j'aime beaucoup d'ailleurs, que je dis « je trouve que t'étais pas drôle le matin ». C'est très, très rare que ça m'arrive de la juger sur la qualité de son humour.
Oui.
Ouais. Mais elle, quand elle trouve que les humoristes vont trop loin, parlent mal, whatever, elle justifie de le faire, mais ça, voilà, c'est son truc. Pour finir avec Maxime, ce qu'il dit, ce qu'il entend à propos du bye-bye, c'est souvent ça, là. Tu sais, genre, ah oui, ça aurait pu aller plus loin. Sauf que quand tu vas plus loin, tu te fais taper ses doigts parce que là, aujourd'hui, t'as pas le droit de rien dire. Puis il finit avec quelque chose que je trouve très intéressant. Il dit, l'aspect des gens qu'il faut ramener à la mode si on veut passer à travers tout ça, c'est l'autodérision, qui est inexistante dans la plupart des discours. Je vais t'en parler plus tard, si tu veux.
Dans la plupart des discours puis des groupes de revendications.
C'est l'enfer.
Mon doux Seigneur.
C'est hallucinant.
Eux autres, ça le vrai que ça leur ferait du bien un petit peu d'autodérision.
Ouais, puis tu vas voir, je vais te parler de la théorie de l'intimidation dans la cour d'école par rapport à tous les Slaves et Kanakas de ce monde.
OK, ouais,
plus tard, je vais te parler de ça. Puis après ça, il dit, il est temps qu'on commence à travailler là-dessus. Si on le fait pas, j'espère que vous aimez le beige parce que c'est en train de devenir notre couleur nationale. Puis sur le terrain, c'est pas si vrai, mais dans les médias, ça l'est de plus en plus. Parce que, puis je le répète, moi, je comprends juste pas ce bout-là. Pour vrai, je le comprends pas. Mais la frilosité, parce que il y a un livre, il y a un film avec Mel Gibson qui s'appelle Payback. Puis à un moment donné, ce qu'il fait, c'est que lui, il se fait voler de l'argent par une petite gang de guenilles. Puis il se dit, je vais retrouver mon argent. Puis je sais que c'est de la mafia qui ont tout fait ça. Puis je vais remonter jusqu'à temps. Puis là, c'est là la phrase intéressante de tout le film. Il dit, ça finit toujours par être un gars qui décide. Une fille, on s'en fout, mais dans le cas de la mafia, c'est toujours des gars.
Ouais.
Puis là, il remonte, puis à chaque fois, il dit, c'est qui ton boss, puis il remonte jusqu'au grand boss qui est dans son grand bureau à New York, comprends-tu, puis il va chercher son argent. Puis moi, dans le domaine qui nous concerne, c'est dans les bureaux des gens, dans les télés, c'est les directeurs de programme qui sont en bout de ligne, tu comprends, les vrais, et tu te demandes, qu'est-ce qui fait qu'ils sont devenus si frileux de ça tout à coup? Qu'est-ce qui fait que les plaintes ont pris ce poids-là?
Ça, c'est une méchante bonne question, par exemple. Qu'est-ce qui fait qu'une plainte, ne serait-ce qu'une seule toute petite plainte,
ouais,
ait un aussi gros impact sur un diffuseur?
Il s'est passé quoi au fil des dernières années?
C'est la réaction du grand public à une plainte.
Est-ce-tu le grand public?
Je sais pas, mais je veux dire, à partir du moment où il y a une plainte quelque part, puis que ça se sait, ça sort partout des journaux, là, tout le monde, le grand public interprète ça. Écoute, je vois d'une théorie à l'aveuglette, là, mais...
Moi, je pense que ce qui est arrivé aussi, c'est que t'as eu une inversion du pouvoir. Les ventes ont pris le dessus sur la programmation. C'est quand les ventes disent « ça, j'aime pas ça parce que mon client, il est frileux », ce qu'ils peuvent très bien inventer, d'ailleurs, avant même que le client soit frileux, le vendeur peut l'être. Ouais. Puis là, ça a une influence. Moi, c'est un petit peu ce que je vois. Mais rentrons pas dans les technicalités. La réalité, c'est qu'effectivement, le poids des plaintes a grossi au fil du temps. Tu comprends?
Oui.
C'est que c'est devenu que quand tu te plains, ça a bizarrement un effet. Moi, je le sais, à testostérone, là, toutes les semaines, ça rentrait, mon gars. Il nous les montrait, les plaintes qui rentraient à TQS. Il nous montrait ça, puis il riait.
Ouais.
Il dit, regarde, ça va direct dans la poubelle. Nous autres, on regarde, ça marche-tu, ça marche pas. C'est tout. Point barre. Mais non, mais comment
c'est
tu
quand
fais?
C'est hallucinant, pareil.
C'était quoi sa business? C'était-tu de pas avoir de plainte ou d'avoir des codes d'écoute? C'est fait que tu peux avoir. Moi, c'est plus ma game, là, de jouer le monsieur provoquant. Tout ça,
jouer dans la controverse. Fini. Mais jouer dans la controverse, disons que c'est pas la mode en 2019.
Puis ça me tente plus depuis 10 ans, 15 ans, là, c'est tout. Mais je l'ai vécu. Tu peux t'en parler comme étant un acteur de ça, tu comprends?
Ouais.
Puis alors, c'était la game à ce moment-là, point final. Mais il reste que j'observe ça de recul, parce que c'est plus du tout, c'est même pas mon propre propos, je me filtre pas. Ce qu'on parle ici, c'est ce qu'on parle dans le couloir, là.
Absolument.
T'es comme moi, là, on est pareil. Bon. Puis, je me dis juste, qu'est-ce qui fait que tout à coup, avec un peu de recul, les plaintes ont eu autant de poids? Ce qui est vraiment moins vrai à Québec. Je spécifie, c'est beaucoup la télé, elle est à Montréal, beaucoup plus frileuse. Ça fait que ça donne ce que Maxime dit, ce avec quoi je suis très d'accord, c'est-à-dire, là, après ça, vous dites, ouais, c'était peut-être pas si drôle, mais là, si ton but, c'est faut être drôle, puis que personne ne se plaigne, ça s'appelle pas drôle.
Là, ouais, c'est ça. Mais c'est drôle parce que tu me fais penser à des membres de la communauté indienne de Montréal qui sont pleins du bye-bye.
Absolument.
Ouais, tu sais, le sketch de Justin Trudeau qui fume un joint. Mm-hmm. Puis là, tout d'un coup, il est comme transporté dans une scène de Bollywood où il se met à danser avec des danseurs indiens, des danses traditionnelles en habit pour ridiculiser son voyage en Inde, qui est quand même un moment marquant de l'année 2018. Le moment où... Alors, il y a des gens qui dénonçaient ça, qui disaient que c'était de l'appropriation culturelle. Le moment où il est assis et puis il fait le charmeur de serpent, mais des paniers sortent, des pompes à gaz au lieu de sortir des serpents, tu sais, parce que évidemment le pipeline puis les questions
les subventions,
le pétrole puis ça a marqué l'année 2018 aussi.
Ouais.
T'as un gorille avec une cravate rouge et puis un toupette de Donald Trump beige là qui donne des coups de pied sur des vaches en carton.
Ouais.
Et bon, on a l'impression que c'est plutôt en lien, c'est directement lié aux renégociations de l'ALENA puis la production laitière, les concessions sur la gestion de l'offre, puis tout ça. Mais il y a des gens qui ont vu ça comme une attaque à l'animal sacré de l'Inde, qui est la vache.
Ouais.
Et donc, ça portait plainte. Hier, on en a parlé de ça. Fait que je regardais ça, puis je me disais, mais le bye-bye, là. Puis c'est directement en lien avec ce que tu dis, tu sais. Si on avait toujours peur des plaintes, ça serait beige.
Hey!
Le bye-bye, là.
Ouais, ça s'appellerait beige.
Ça s'appelle...
Beige de mes
C'est drôle en crise. Non, mais c'est impossible qu'il n'y ait pas de plainte après un bye-bye.
Impossible.
Tant qu'il ne change pas la formule, mettons, là.
Ouais, ouais.
Et je souhaite qu'il ne la change pas, parce que moi, ça me fait beaucoup rire, là.
Ouais.
Mais c'est impossible un bye-bye sans plainte.
Ça fait que tu fais quoi si c'est impossible?
Je suis passé à travers un matin.
T'essaies-tu d'en avoir le moins possible ou tu te dis, garde zéro, on fait ce qu'on trouve drôle,
Mais ils font attention, par exemple. Là. Écoute, ils se mettent de la pression sur les épaules. T'en parleras avec Simon-Olivier Fecteau. Quand ils font des meetings,
c'est tout le job, là.
Ils réfléchissent à tout, puis là, ils vont-tu se faire chicaner? Mais regarde bien ça. Je suis passé à travers tous les sketchs ce matin. J'ai pas réécouté au complet, mais je passais tous les sketchs, puis j'ai réalisé que c'était impossible qu'il y ait personne qui se plaigne d'un bye-bye. D'abord, Donald Trump, et ça commence avec Donald Trump et Mélamina, qui est enlevée par le méchant Damien Stone de la série Fugueuse. Mais là, comment ça, les projets intervention prostitution Québec, puis les CALAC, puis les CAVAC, faut qu'ils se plaignent, là, ridiculiser comme ça la prostitution.
Ouais.
Puis pourquoi les Américains nous ont pas envoyé des lettres de plainte aussi de ridiculiser leur président comme ça?
Oui.
C'est vexant. C'est de la moquerie. Les médecins spécialistes. Claude Legault, vraiment, qui joue le médecin spécialiste et qui passe la carte constamment. Je suis désolé, mais je suis surpris que l'Organisation des médecins spécialistes du Québec ou le Collège des médecins ne soit pas plein. Ouais. Franchement, c'est de la moquerie. C'est de la moquerie. Les assoiffés. Hein, puis la SQDC. Pourquoi les syndicats des employés de la SAQ, les syndicats des employés de la SQDC ont pas porté plainte? Écoute, grief, mes amis, grief. Académie des réseaux sociaux, j'ai pas vu une influenceuse en bikini dire « Hey, c'est un peu insultant », alors que ça l'est pas mal.
Oui.
Ça l'est pas mal. Oui. Kanata et Black Panther, écoute.
Ah, ben ça a été fait déjà. Là. Déjà, je vais t'en parler
plus. Ah, Robert Lepage, tu dis, c'est franchement vexant?
Non, mais il s'est déjà un peu excusé pour sa démarche en disant qu'il va corriger le tir.
Oui, etc. Mais c'est pas plein du bye-bye.
Non, mais il aurait pu. Comme
l'UDA au complet aurait pu se plaindre du bye-bye.
Oui, oui.
Écoute, Céline Dion, Manon Massé, Mario Pelcha, le PQ, le Bloc, le PLQ, QS, la CAQ, tous les humoristes, le Canadien de Montréal, les juges et l'animatrice de XOXO, oui. Hubert Lenoir, François Legault, Safia Nolin, tout du monde qui aurait pu se plaindre, Guy Nantel, évidemment. Et ça, c'est sans parler du savoureux tour du monde d'RBO. Sont où les regroupements, rassemblements, organisations d'immigrants arabes, russes, asiatiques, anglais? Personne de ça s'est plaint. Pourquoi? Peut-être qu'on est un peu plus capable d'autodérision, finalement, qu'on le pense.
Ouais.
T'sais, parce que tout ça, au final, là, ça passe que par l'autodérision.
Oui, je suis d'accord.
Si on est capable.
Il est bon, c'est Maxime, c'est bon. C'est pour ça que je te parle de son article.
T'sais. Moi, j'étais le premier à dire que le sketch sur. Tu sais, il y a des gens qui disaient, franchement, Québec, le IKEA. Hey, si la
c'est drôle, c'est écoute, vraiment drôle. Moi, j'ai ri.
Le phénomène du IKEA, il est drôle.
Oui.
Le sketch d'RBO, il est drôle. OK? Et si c'est la pire affaire qu'on a faite pour se retrouver au bye-bye à Québec, c'est vraiment pas si pire que ça, honnêtement.
Exact, exact. Alors, c'est quasiment un sketch de jalousie.
Ben, c'est ça, exact. Puis il faut un gag sur le fait que le troisième lien, on va le trouver en pièces détachées au IKEA. C'est un bon jeu d'esprit. Honnêtement, il faut être bon joueur. Puis si on le demande à toutes les organisations, le groupe de revendication, il faut le faire nous autres aussi. Mm-hmm. Je pense qu'on l'a fait comme il faut. Maintenant, permettons-nous de rire un petit peu à la fin de l'année.